On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons le goulag, et puis voyons toujours cet aspect combien certains ont profité pour se sauver, malgré cela, et puis d'autres pour se dépraver, à cause de la souffrance. Un poète russe avait fait un quatrain qui était répété, surtout par les moines dans le goulag, qui disait ceci. « Ne dites pas qu'il n'y a point de salut, que tu succombes sous les peines. Plus sombre est la nuit, plus vives sont les étoiles. Plus sombre est la nuit, plus vives sont les étoiles. Plus profonde est l'affliction, plus Dieu est proche. » Okay. Ces moines répétaient cela comme... Pour supporter les épreuves. Et c'est vrai que de toute façon, même si le temps est pourri, après le temps pourri, il y a toujours un soleil qui revient. C'est cyclique, c'est une vérité ça. Et nous, on sait bien, le soleil de justice se lèvera un jour ou l'autre pour mettre fin au sketch, fin au théâtre, et juger les hommes. Le soleil de justice. Mais en attendant, c'est vrai que la souffrance nous permet de mieux voir les étoiles, de mieux comprendre des choses que la souffrance ne nous aurait jamais permis de comprendre vraiment. Ce sont les ténèbres qui nous font comprendre parfois les choses, par contraste. Et donc la souffrance est entre autres permis par Dieu eh bien, pour justement permettre à des gens de se changer, alors qu'ils ne se seraient pas changés sans la souffrance, de se rapprocher de Dieu. Et certains, après avoir fait le pire, eh bien, parce qu'ils ont connu eux aussi l'épreuve, eh bien, ont été capables du meilleur. Et il va citer l'exemple de Karponitsch Braven, qui fut d'abord, pendant la guerre civile, un commandant de brigade favorisé par le succès, donc un gars du système, qui, sans examiner les listes qu'on lui donnait, que lui apportait le chef de la section spéciale, eh bien, inscrivait, sans même regarder les noms, sans même s'inquiéter, inscrivait toujours en bas de la feuille MS, mesure spéciale, ça veut dire emprisonnement. Mais bien plus tard, il fut lui aussi 25 ans à la Colima. Donc lui aussi a reçu une peine, hein, comme on l'a expliqué, par hasard, boum, 25 ans de goulag. 20 ans. Il est maintenant un homme qui vit en pleine forêt, dans une ferme isolée, et qui refuse de déposer une demande de réhabilitation. Vous voyez, en plus, il a son honneur, lui. Et qui remplit des cahiers entiers de réponses furieuses à chaque émission de radio ou chaque article de journal où il entend la propagande mensongère, alors il réagit. Mais des années passent encore et le voici maintenant fermier philosophe qui recopie avec une conviction profonde cet aphorisme trouvé dans un livre. Écoutez bien, c'est peu d'aimer l'humanité, il faut savoir supporter les hommes. Très juste. L'humanité, mais ça c'est quoi l'humanité? Ça ne veut rien dire, aimer l'humanité, les droits de l'homme. Hein. Supporter un homme, supporter sept hommes, c'est là qu'on voit la différence. Et ça, c'est l'Évangile le dit. Hein. La charité est patiente. Patience, ça veut dire pâtir. Pâtir, ça veut dire souffrir. Il y a une des conséquences de la charité, c'est savoir souffrir de l'autre. Et Sainte Thérèse disait exactement ça. Elle disait la principale action de la charité, concrètement, vu notre état, ne sera pas tant les œuvres de bienveillance, ne sera pas tant les aumônes, ça c'est de la charité, mais l'action principale de la charité consistera à supporter les défauts des autres. C'est vrai entre nous. Et juste avant de mourir, c'est de lui-même cette fois qu'il tire ces paroles qui font sursauter car elles sont du mysticisme. Voici ce qu'il écrit. « J'ai vécu en jugeant toute chose à ma mesure. Mais à présent, je suis un autre homme et je ne juge plus les choses à ma mesure. » Tout est là. C'est une grande leçon, ça. Si on arrive à faire ça, on est dans la vérité. Bon, on est proche de la sainteté. Hein. Et c'est un gars qui a été un bourreau qui a écrit ça, puis qui a souffert, puis qui est rentré en lui-même et puis qui a changé. Et maintenant, c'est un homme. Mais à présent, je suis un autre homme, je ne juge plus les choses à ma mesure. Je ne suis pas le centre du monde. Étrangement, la libération du goulag était vécue donc de façon très, très différente. Non seulement le goulag, mais aussi la libération du goulag, quand on retrouve sa liberté. Certains détenus sombraient physiquement, moralement, alors que quand la pression extérieure s'atténuait, se relâchait. Igor Kaminov écrit « Depuis que je suis en liberté, je ne fais que m'affaiblir et à me laisser aller. Et j'ai l'impression de mener une vie beaucoup plus pénible qu'au goulag. Parce qu'il n'y a plus le ressort intérieur, c'est tout à fait étrange. D'autres, au contraire, commencent vraiment à revivre à partir de ce jour, de la libération. Et ils ont comme une révélation subite. Comme la vie est facile quand on est libre. Tout ce qui paraît aux autres un problème insoluble et torturant, nous le résolvons d'un claquement de langue. C'est que, pour mesurer toute chose, nous avons notre formule. On a vu pire. On a vu pire. Donc maintenant, cela va tout à fait bien. Et les gens de cette race-là se refusent pendant longtemps à rien posséder. Ils se rappellent avec facilité que tout disparaît, comme si un incendie était passé par là. Ils ont une manière presque superstitieuse d'éviter les objets nouveaux, d'user les vieux vêtements jusqu'à la corde, de conserver leurs chaises cassées. Kopelev, à Moscou, en 1955, décrivait que ce n'était pas commode de vivre avec des gens qui ont une vie sans histoire, une vie facile. Vivre avec les gens qui ont une vie facile, ce n'est pas facile. Parmi mes anciens et amis, je ne fréquente maintenant que ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont des difficultés dans la vie. Étonnant, mais ça s'explique bien en fait quand on réfléchit. De fait, dit Solzhenitsyn, humainement, il n'y a d'intéressant que les gens qui ont renoncé à se façonner une carrière, donc qui arrêtent de jouer le théâtre. Ils sont ce qu'ils sont avec leurs défauts et avec leurs qualités. Ils ne jouent pas. Ceux qui ont les mains occupées à cela dégagent un ennui mortel. Cependant, les hommes sont divers et beaucoup ont ressenti le retour à la liberté de manière toute différente. « Hurrah !» disaient certains, « je suis libre !» Et un seul impératif maintenant, éviter que ça recommence. Et en avant, rattrapons le temps perdu, donc de manière matérialiste. Ceux-là se mettent alors à collectionner acquis les fonctions administratives, certains les grades universitaires ou militaires, ou les salaires, ou les dépôts à la caisse d'épargne. Valentin nous jurait qu'en prison, il se rattraperait sur le chapitre des filles, sur les plaisirs. Et il tint parole. Plusieurs années d'affilée, on le vit jour le jour au travail et le soir, même en semaine, avec des filles qui changeaient constamment. Il dormait 4 ou 5 heures par nuit, et cela le dessécha, et il prit un coup de vieux. Le gars, il s'est corrompu plus en liberté qu'au goulag. D'autres se rattrapent sur la nourriture, ou sur les meubles, ou sur les vêtements. Acheter devient alors la plus agréable des occupations. À ces deux manières différentes de prendre le monde extérieur correspondent deux attitudes différentes à l'égard du passé. Et bien, tout ça n'est pas nouveau pour un chrétien. Saint Jean le dit, attention à la triple concupiscence. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, la consommation, la possession et orgueil de la vie. C'est tout ça qui résume l'histoire des hommes et l'histoire du goulag. On le voit. Parmi ceux qui ont survécu et retrouvé la liberté, on compte une part considérable de planqués, évidemment. S'agissant de condamnés à un long temps de peine issus des 58, je dirais les 9 dixièmes. Presque chaque détenu que vous félicitez d'avoir pu survivre est un planqué. Ou bien il l'a été durant une bonne partie de sa peine. Car ces camps étaient des camps d'extermination, il ne faut pas l'oublier. Et il est bien difficile pour un planqué de zone d'avoir une conscience que rien ne vient assombrir. Et puis il y a encore une question, celle des moyens dont il s'est servi pour accéder à cet emploi. le critère de la compétence est rarement, joue rarement, sauf pour les médecins, etc. Et surtout, il est une voie indiscutable, l'invalidité, évidemment. Mais la grande question est la suivante. Une fois monté en grade, il est planqué. Tant mieux pour lui, il est planqué. Mais la grande question est, une fois monté en grade, quelle a été sa conduite vis-à-vis de la masse? Et ça, c'est la question qu'on peut poser à tout homme aujourd'hui dans la société qui a un poste de responsabilité. Que d'arrogance et souvent que de grossièreté. Qu'il est facile d'oublier, nous sommes tous des indigènes, transitoires et notre puissance. Et enfin, la question encore la plus haute. En admettant que vous n'ayez rien fait de mal à vos frères en détention, leur avez-vous été utile au moins à quelque chose? Avez-vous au moins une fois fait tourner votre position à la défense du bien commun? Ou n'avez-vous toujours pensé qu'au vôtre? Qu'as-tu fait pour le bien commun? Si peu que ce soit, au moins une fois. Il y en a qui le peuvent, tel Vassili Vlaslov, qui se rappelait les prouesses accomplies dans l'intérêt commun. Et là où il s'en est trouvé le plus, c'est dans le rang des ingénieurs, et gloire à eux. Pour refuser tout casage au camp, pour laisser les forces de la pesanteur vous entraîner librement jusqu'au fond, il faut une âme déjà bien affermie, une conscience toute pénétrée de lumière, une peine déjà bien purgée, et il faut sûrement recevoir des colis de chez soi, autrement ce serait la mort assurée. Comme le dit d'un ton de culpabilité reconnaissante un vieux des camps, « Je suis vivant aujourd'hui, si je suis vivant aujourd'hui, c'est que l'autre nuit, on a pris un autre que moi sur la liste pour le fusiller. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est que quelqu'un s'est asphyxié à ma place dans la soute inférieure. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est que j'ai eu droit à 200 grammes de pain en plus qui ont fait défaut à celui qui est mort, etc. etc. » Le goulag ne pouvait rien, donc on l'avait déjà vu, contre les hommes qui méprisaient la vie, qui passent. Il pouvait les tuer, mais pas les souiller, pas les salir. Il ne pouvait pas leur faire perdre la vraie vie, vie éternelle. Et voici un exemple tout à fait sidérant et un des plus remarquables que j'ai pu lire. Ossorgine était désigné pour être fusillé tel jour. Or, le jour même de cet événement, débarque au Solovki, les îles qui étaient les premières îles du Goulag, sa jeune femme, et lui-même n'a que 40 ans, n'a pas encore 40 ans. Ossorgine demande à ses geôliers, enfin, faire un contrat avec eux. Il leur demande, n'assombrissez pas mon entrevue avec ma femme. Et lui-même promet alors qu'il ne laissera pas s'attarder plus de 3 jours sur l'île. Et sitôt qu'elle sera partie, eh bien il acceptera qu'on le fusille. Voilà ce que c'est que cette maîtrise de soi que l'anathème jeté sur l'aristocratie nous a fait oublier. Parce que pour faire une telle action, ça demande en effet une maîtrise de soi, une habitude de la maîtrise de soi. On ne fait pas ça la veille de sa mort. On ne se dit pas, tiens, il y a toujours des miracles possibles, demande de la grâce, mais ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est un homme qui certainement a dû vécu selon des rites hiératiques, des rites sacrés, des rites transcendants. Ce n'est pas possible autrement. À nous qui gênions à chaque petit malheur, 3 jours sans désemparer avec sa femme et ne rien laisser deviner. Pas la moindre allusion, dans aucune phrase, ne pas baisser le ton, ne pas laisser ses yeux se voiler. Une seule fois, sa femme, qui est encore en vie, se rappelle la scène. Une seule fois, lors d'une promenade au bord du lac sacré, s'étant retournée, elle vit son mari se prendre avec douleur la tête dans les mains. « Qu'as-tu donc ?»« Rien, 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 » dit-il en se rassérénant sur le champ. Et elle eût pu rester encore, mais il obtint d'elle qu'elle s'en alla. Et le bateau-vapeur était en train de s'éloigner, qu'il était lui en train de se déshabiller pour se faire fusiller. Et il a voulu, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir à sa femme, lui laisser 3 jours de belle amitié, sans assombrir inutilement. C'est extraordinaire, c'est tout à fait extraordinaire. Le système, on va le voir les prochaines fois, va commencer à faiblir. Ce système de persécution va faiblir. Les choses vont commencer à changer le jour où les hommes, de manière plus massive, et pas seulement un individu, mais ça commence toujours par un individu, les hommes vont refuser de ne voir que leur intérêt, ma survie immédiate. Ils vont oublier ça pour agir sur le bien commun et pas sur leur survie. À partir du moment où ces gens-là acceptent le risque de tout perdre pour le bien commun, à partir du moment où ils acceptent de souffrir pour la justice, eh bien, plus rien dans le goulag va être comme avant. En fait, la logique du goulag est cassée par ça. Puisqu'on l'a vu, la logique du goulag, c'est à toi maintenant et à moi de survivre, à toi de mourir. Et moi, je verrai demain. Survivre à tout prix. Non, non. Si on est prêt à périr pour le bien commun, ça casse toute la logique du goulag. Et donc de la société. Parce que quand on en est là, on n'a plus peur. Et quand on n'a plus peur, plus aucune menace ou pression ne peut vous atteindre. L'homme qui est prêt à mourir est invincible. Et un ancien du goulag a raconté en poème le courage d'un de ces hommes anonymes, inconnus, qui atteint là encore des sommets inimaginables par sa simplicité. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la tyrannie? Et c'est très actuel ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire devant cette gigantesque imposture qui écrase l'humanité? Moi, un petit individu, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas un général, je ne suis pas un chef d'État, je n'ai pas les moyens. Écoutez la suite. Transfert. Pour la énième fois, après avoir hurlé, arrêt, l'escorte ordonne qu'on s'assoie dans la neige et dans la boue gelée. Sans voix, pareil à des moutons, nous restons tous accroupetons. Jusqu'à ce qu'on crie « En avant !» Que de transferts au fil des ans devrons-nous encore endurer? Sans cesse, de nouveaux déportés affluent et grossissent nos rangs. Mais un beau jour, l'un de nous s'obstine à rester debout. Au sein de la foule accroupie, il se tient tout droit, fièrement. Il connaît bien le règlement. Tout à l'heure, on nous l'a relu. Il reste debout, cependant, comme il n'avait rien entendu. Avec calme et simplicité, il domine les gens prostrés, le regard levé vers les cieux, évitant nos rangs. Un soldat le prend pour cible et lui crie « Assis ! Assieds-toi donc !» Rien à faire, il ne s'assied pas. Il règne un silence de mort. On entendrait battre nos cœurs. Alors le soldat crie « Debout !» Et puis, colonne, en avant, marche. Et nous repataugeons dans la boue, ignorant le but du voyage. Les uns rient de soulagement, les autres sont pâles de honte. On nous disperse dans le camp. Je ne serai rien sur son compte, mais je me souviendrai pour la vie de l'allure de cet homme-là, au sein de la foule accroupie, lui seul est resté fier et droit. C'est ça qu'on peut faire. C'est ça qu'on doit faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards, de Pékin moyen qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares, qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de pays.
Pékin moyen qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça tant qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise, aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Respirez plus.